Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Talks, nouveau numéro pour dévoiler, vous connaissez notre émission, les stratégies des grandes entreprises, émission que j'ai le plaisir de partager avec Gus, le CEO de Circle.
Bonjour Arnaud.
Comment ça va ?
Mais très bien toi.
On va dévoiler évidemment les coulisses, les stratégies, parce que ça c'est votre spécialité de Monoprix, la grande distribution, le commerce, un modèle en pleine transformation, on en parle avec notre invité juste après le jingle. Et avec nous dans Smart Talks pour parler justement de ce modèle de grande distribution, Guillaume Sénéclos. Bonjour Guillaume.
Bonjour Arnaud.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président du groupe Monoprix Naturalia et on va bien sûr parler avec vous du développement de ce groupe et des transformations évidemment. Il y a un leitmotiv dans ce que vous dites, transformer une enseigne en marque. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ben c'est vrai, ma passion c'est les marques et transformer une enseigne en marque. Et Monoprix est une marque. Une marque, c'est quoi ? C'est plus qu'une enseigne. C'est-à-dire, au-delà de la valeur transactionnelle, il y a une valeur émotionnelle qui vient s'ajouter et qui fait que les clients, quelque part, ils disent « J'y vais aussi parce que j'aime cette marque ».
Complètement. C'est un pari, enfin un pari. En tout cas, ça a été vachement bien fait parce que la marque Monoprix aujourd'hui, elle existe clairement dans le cœur, dans la tête des Français, des Parisiens. Moi, je vais te parler de la stratégie de la ville où Monoprix a été extrêmement efficace. Tu as dit, vous avez créé une belle marque, il y a des lieux de vie, on en reparlera. Néanmoins, la ville reste un endroit extrêmement concurrentiel. Il y a aussi bien au niveau du D2C, où les choses sont arrivées, on a vu des rayons entiers, genre le pet food, en D2C, ça a été une cata pour le retail, et pourtant c'était un vrai produit d'appel. Il y a tout ce qui est le drive, qu'est-ce que Monoprix met en place, enfin Monoprix de manière générale, et Naturalia met en place pour adresser cette concurrence dans ce qui est votre cœur de métier, c'est la ville, quoi.
Alors, d'abord, merci de rappeler que Monoprix, c'est la locomotive du centre-ville en France, présente dans 215 villes à travers différentes enseignes, que ce soit Monoprix, Monop Deli, mais également Naturalia. Ouais. Hein, donc, les centres-villes et avec 20 000 collaborateurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, notre rôle, il est double. Il est d'offrir au client citadin ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. C'est-à-dire dans les magasins, d'une part, mais aussi à travers tout un dispositif que l'on appelle omnicanal.
C'est ça.
Qui est votre spécialité, d'ailleurs.
Mais en fait,
dans votre carrière, dans votre parcours, c'est une de vos spécialités, quand même. On ne vous a pas présenté précisément.
Oui.
Mais c'est ça qui fait votre particularité.
L'omnicanal, en fait, c'est quand même le grand changement, la grande évolution des comportements du client depuis une petite dizaine d'années, mais terriblement accélérée depuis le Covid.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, ce qu'a Monoprix à offrir, Monoprix, en fait, s'est associé au leader, au plus grand partenaire de l'omnicanal pour offrir le meilleur service de livraison à domicile en ville. Donc, ces leaders sont au cadeau pour le plein de courses, ouais. C'est-à-dire avoir la possibilité de commander jusqu'à 34 000 produits pour le lendemain, dans un choix. Deux, les courses pour dans 2 heures, et ça, c'est un partenariat exclusif avec Amazon, ouais. Mais aussi avec Uber Eats et Deliveroo. Et trois, tout ce qu'on appelle le quick commerce, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des produits en moins de 10-15 minutes. Et là, c'est avec Getir, Gorillas et Frishti.
Alors, sur ces modèles-là, on sait à quel point ça reste encore des modèles extrêmement peu stables. On parle d'Amazon. Amazon, ils continuent à perdre de l'argent sur le delivery. Ils ont toute la partie cloud qui marche bien, mais sur ce métier-là, ça reste extrêmement compliqué. On a vu les gros changements dans tout ce qui est tous les acteurs Gorillas, Deliveroo, etc. C'est des boîtes qui continuent à fonctionner grâce au PI, donc tout ce qui est private equity. Les taux étant différents et que le monde de demain est différent de celui d'aujourd'hui, s'associer avec ces acteurs-là, comment est-ce qu'on voit une pérennité ? Parce que, en fait, on s'assied avec des acteurs qui n'ont pas encore tout à fait trouvé leur business model. Ça n'empêche que c'est ça que le client veut. Comment est-ce qu'on gère ça en interne ?
Gus, tu as dit 2 mots qui sont importants. Tu as dit l'omnicanal en début de conversation et le deuxième, le client. Moi, j'ai envie de les rassembler en un qui s'appelle l'omni-client, qui est notre stratégie chez Monoprix. Mmh. C'est-à-dire
d'offrir... Palette de choix.
la palette de choix, ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Donc, ce qui nous occupe avant tout, c'est le client. Donc, la question de fond, c'est y a-t-il un besoin du client d'avoir des courses rapides ? La réponse est oui.
Tout à fait. Mais il y a un moment où tu te dois de t'arranger pour que tes suppliers aient un business model qui tienne la route. Parce que si en fait tu t'appuies sur des partenaires qui ont un business model qui est branlant, il y a un moment où ça va. Il y a un moment où ils vont prendre la claque. S'ils prennent la claque, tu la prends aussi, quoi.
Alors Arnaud, tu me parlais d'expérience. Il se trouve que ce que l'on voit en France, on le voit dans beaucoup d'autres pays, et entre autres en Amérique latine, oui, où j'ai passé quelques années. Mmh. Et là aussi, nous avons développé en partenariat, et ça il y a un peu plus de 5 ans, des associations avec des spécialistes de la livraison à domicile. Et ce business croît jusqu'à atteindre à un moment donné une masse critique, ouais, qui fait qu'il devient soutenable dans le temps. Moi, mon point qui est le plus important là-dedans, c'est s'il y a une demande client, à la fin, quand on gère bien, on arrive à trouver un modèle économique qui permet de le faire vivre.
Dans ce que vous dites tous les deux, c'est intéressant parce que c'est l'omni-client. Je peux acheter en ligne, mais j'ai aussi envie de pousser les portes d'un magasin.
Complètement.
Parce qu'il y a un petit côté, je mets des guillemets, mais un peu Lafayette gourmet, premium, luxe. Est-ce que c'est ça le positionnement de Monoprix aujourd'hui ?
Alors, c'est pas exactement ça.
Non, mais justement, j'ai envie de comprendre où il se situe.
C'est aussi ça, mais ce n'est pas ça. Nous, notre cible, ce sont les citoyens. Et même, le cœur de la cible, c'est même la femme, puisque 80% des acheteurs sont féminins.
Waouh !
Dans lequel, incroyable, on peut trouver...
Ça c'est ton public cible, c'est 80% de femmes ?
C'est ceux qui achètent aujourd'hui.
Incroyable.
Parce que quand vous êtes en ville, vous avez en fait tout pour vous. Un, le textile, la maison.
C'est vrai.
Deux, la beauté en centre-ville. Et trois, tout ce qui est l'alimentaire et aussi avec le frais. À service.
Ça, c'est important.
Donc, en fait, c'est un modèle qui est très vertueux,
ouais,
parce que d'un côté, l'alimentaire vous donne de la fréquence.
Tout à fait.
Et de l'autre côté, ça te donne de l'attraction.
Tout à fait.
Donc, l'un va avec l'autre et c'est ça qui fait qu'on arrive à répondre aux besoins du client.
Excusez-moi, j'en reviens à la qualité. Parce que quand on va chez Monop, pour ceux qui poussent la porte, je dis Monop chez Monoprix, il y a quand même une exigence de qualité, que ce soit le textile, que ce soit le frais. Est-ce que ça aussi, c'est un viatique, vous le portez, vous dites qu'il faut pouvoir avoir des produits facilement accessibles, mais aussi de qualité?
Alors, non seulement qualité et responsabilité.
Non, c'est pas de qualité.
Non seulement qualité et responsabilité. Responsabilité. Je note que Arnaud, vous avez dit Monop. Donc, je reviens sur la marque.
Vous voyez, c'est
les clients qui ont baptisé Monoprix Monop.
C'est vrai.
On dit je vais à mon Monop. Ouais. On ne dit pas je vais à mon... Prenez tous les noms concurrents, ça ne le fait pas.
Non.
Vous prenez, c'est mon... C'est incroyable. Donc, vous disiez, c'est quoi la différence entre une enseigne et une marque? Vous venez, Arnaud, de donner une...
On vient de le définir.
C'est exactement ça.
Alors, pour...
Allez-y, Guillaume.
Alors, ce que le client de Monoprix va chez Monoprix parce que il a des besoins, mais aussi parce qu'il y a du plaisir. Et ça, c'est un élément qui est très, très spécifique. Quand je me mets dans un magasin et que j'attends, je regarde comment achète le client falane, et le verbatim du client ou de la cliente dit « je craque chez Monop ». Sur quoi je vais craquer? C'est jamais des produits chers, ce sont des produits un peu qu'on trouve ici, qui me font craquer, qui embellissent mon quotidien.
C'est ça. Et sur, bon alors, du coup, sur stratégie de la ville, le drive, on en a parlé, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur la partie D2C, où on a des rayons entiers qui sont partis, où les marques ont fait du D2C, je parlais du pet food, mais le textile, ça a quand même été quand même vachement compliqué aussi, hein, le rayon du textile dans le retail est quand même c'est amoindri de manière assez importante. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Est-ce qu'on essaye de se dire, bon, ok, en fait, il y a des catégories de produits où on ne va plus aller parce que de toute façon c'est mort, on essaye de les régénérer, et on essaye de trouver une nouvelle catégorie qui sont des produits d'appel. C'est quoi la strat là-dessus?
Alors Gus, ce qui est sûr, c'est que le magasin ou le commerce d'hier ou de l'avant-Covid, disons, n'est pas exactement le même que le commerce d'aujourd'hui. Donc la différence, elle est où? Elle n'est pas dans le blanc-noir, elle est dans le
gris
sur les catégories. Mmh. Donc je peux prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est dans le mix des canaux.
Ouais. Hein,
là où les clients étaient essentiellement magasins, pendant le Covid, ils sont devenus essentiellement e-commerce, à tel point qu'on a dit ah ben les magasins sont morts. Voilà, ça y est. Maintenant, on a terminé le Covid, tout revient en magasin, puis on dit non mais finalement l'e-commerce c'est plus ça. Non. on a vraiment passé un stade où on a une grande part de e-commerce et une part de magasin physique. Donc ça, c'est le premier élément. Après, dans l'offre également, ça nous appelle à faire un certain nombre d'arbitrages. Donc il y a des produits que l'on va aller plus naturellement chercher en magasin. Par exemple, les produits frais à service, c'est ça. Ce qu'on appelle le poids variable, sa banane, ça, on a besoin de l'avoir. On
complètement,
a
besoin de... tout à fait.
Et le textile, c'est pareil. Le textile s'achète en touchant aussi. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, ça c'est pour l'offre magasin, on a développé et on développe par ailleurs une offre internet aussi pour les clients qui veulent acheter leur textile à travers de Monoprix.fr.
Guillaume, juste un mot sur l'inflation, parce qu'il ne faut pas négliger ce sujet. Il est là, il est devant nous, il est en ce moment et il concerne tous les Français, tous ceux qui consomment. Vous avez bloqué des prix.
Oui.
Quelle est la stratégie sur cette question du prix et de l'inflation? Parce qu'il y a la qualité, mais on nous dit en même temps, attendez, s'il y a la qualité, bah, il faut aussi payer le prix. C'est ce que dit le monde agricole, par exemple. Oui. Comment vous gérez l'équation, là?
Alors, c'est une équation qui est effectivement... c'est un défi à gérer, notamment en France, où c'est la première fois qu'on a eu une inflation des prix, cette année, comme on n'a jamais vu. Donc, on la gère en offrant déjà des produits de base au meilleur prix. Donc vous avez cité les 300 produits à marque propre du quotidien, donc marque Monoprix, on les a fixés, les prix figés depuis le mois d'octobre, et on s'est engagé. On était les premiers Monoprix d'ailleurs à avoir...
c'est pas Carouf qui est passé en premier
à avoir annoncé. Bloqué, et qui sont bloqués aujourd'hui, et qui sont bloqués jusqu'au mois de juin.
Ok.
Jusqu'au mois de juin. Donc là, vous avez les mêmes produits, si vous les prenez.
Le prix ne bougera pas.
Voilà. Ouais. Depuis la fin septembre, et ça, jusqu'au mois d'août. Ça, c'est le numéro un. Numéro deux, je vais prendre un exemple sur la qualité et le prix pour répondre précisément à la banane. La banane. Donc, le choix de Monoprix sur la banane est d'avoir une banane bio, fair trade. C'est-à-dire qu'il y a une garantie aussi pour les producteurs, mais aussi une garantie de qualité, mais de ne pas en avoir d'autres. La banane est à 1,99. Le prix de la banane est en train d'augmenter. Le prix aussi est fixé. Ça ne fait même pas partie des 300 produits et on n'en fait pas la publicité. Mais voilà un élément qui montre comment nous sommes déterminés sur la qualité, sur la responsabilité, mais aussi sur le prix.
Alors, sur
le prix juste.
Le panier anti-inflation, que bon, tout le retail a suivi, on ne sait plus qui était le premier, mais bon, ça, c'est pas très grave. Il y a un moment où ça, c'est bien, c'est un peu un espèce de plate sur une jambe de bois, parce qu'on a une inflation maintenant, on espère qu'elle retombe, et donc on remettra les prix. Il y a une autre notion, c'est la responsabilité des retailers dans la chaîne de valeur de l'alimentation. Quand on voit des agriculteurs qui dépérissent et dont les fermes se ferment les unes après les autres, quelle est la responsabilité du retail là-dedans pour se dire, en fait, je vais faire, entre guillemets, un panier souveraineté, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là, ces produits-là, tu peux t'assurer que, quel que soit le contexte géopolitique, j'arriverai toujours à avoir les éléments, parce que je prends le pari de diversifier mon approvisionnement et avoir du local avec des prix qui tiennent la route. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le panier anti-inflation, c'est sympa, mais c'est très court-termiste. Quelles sont les choses qu'on met en place pour vraiment prendre la responsabilité sur un sujet qui est essentiel, qui est l'alimentation des Français, quoi.
Alors, très bonne question, et aussi nos agriculteurs. Étant d'une famille d'agriculteurs, j'y suis particulièrement sensible. Soit dit en passant, quand j'étais au salon de l'agriculture, nous avions des échanges avec des agriculteurs qui me posaient ces questions. Moi, le matin, quand je me réveille, je me dis comment je peux défendre les agriculteurs. Quand je passe le pas de ma porte, je me dis aussi comment je peux contribuer en tant que patron d'une enseigne de distribution, comment je peux contribuer aussi à cette filière. Donc la réponse, ou une des réponses, ça s'appelle la filière. Filière, c'est quoi?
Garantir.
Pour Monoprix, ça existe depuis 2016, ce sont 26 filières, 46 fournisseurs qui garantissent une qualité, d'une part, mais aussi un prix pour le client, un prix juste, et un revenu aussi garanti pour le producteur. Un exemple, le kiwi. Donc le kiwi, vous avez plusieurs sortes de kiwis. On a trouvé un producteur qui est à côté de Toulouse, ouais. qui fait du kiwi français. Parce que vous savez que le kiwi n'est pas...
Ça existe. Voilà. Mais à l'origine,
depuis
il n'est pas
peu,
français.
Voilà. Donc, avec ce producteur, nous avons développé jusqu'à trois types de kiwi. Le kiwi jaune, que tout le monde connaît, le kiwi vert, que tout le monde a, et le dernier petit nez, qui est le kiwi rouge, qui a été lancé cette année en exclusivité chez Monoprix. Grâce à quoi ? Grâce à cette alliance privilégiée et directe que nous avons avec le terroir.
Mais alors, pour continuer dans cette responsabilité que le retail a dans la filière, on voit la problématique qu'il y a sur le sujet et que sur le long terme, il est urgent et important qu'elle subsiste. Est-ce qu'il y a un moment les retailers qui se mettent autour de la table et qui disent bon, écoutez, on va faire un truc, on va tous serrer un peu la vis, on va prendre un peu sur nos marges, on va essayer de mettre ça, faire payer le consommateur, mais il faut qu'on prenne notre part de responsabilité pour maintenir cette filière à flot. Parce que avant, elle survivait avec des subsides, machin. Maintenant, on a une espèce de compétition internationale qui fait que...
Ils existent ça... toujours, hein. Il y a toujours la...
Non, non, tout à fait. Mais il y a un moment où il faut qu'on puisse trouver des choses qui soient durables, on va dire, sur ce truc-là. Est-ce que...
Ça, c'est durable, non ? Je ne sais pas.
Oui, mais c'est nouveau. Mais si chacun des retailers fait un peu son truc de son côté, est-ce qu'il y a des actions communes pour se dire, écoutez, les mecs, on va essayer de faire un truc ensemble ?
Alors, est-ce que ça passe par une action qui est commune ou est-ce que ça passe en direct ? Pour moi, il vaut mieux que ça se gère en direct avec chacun des producteurs ou avec, d'offrir le produit du terroir jusqu'à l'assiette du client. Voilà, c'est ça le plus vertueux, c'est l'ultra local. Je voudrais répondre à une autre, d'une autre façon aussi, c'est par rapport au bio.
C'était ma question. Parce qu'il y a un trou d'air du bio là quand même. Hein. Ah, oui, consommateur qui tourne le dos, c'est plus cher. Est-ce que vous garantissez à la fois à ceux qui nous regardent, peut-être agriculteurs, les filières, et est-ce que vous dites, quoi qu'il en coûte, c'est le cas de le dire, continue à soutenir le bio ?
Il y a des agriculteurs qui arrêtent le bio, parce qu'en fait, c'est pas vivable.
Pareil que pour l'e-commerce. Au début du Covid, on nous a dit aux agriculteurs, mais il faut que vous fassiez du bio. Mais comment se fait-il que vous n'avez pas du bio ? Sauf qu'il faut... quoi, entre 3 et 5 ans pour changer un champ en bio.
La conversion, oui.
Voilà, et puis il y a beaucoup de contraintes, ça coûte tout cher de le faire. Enfin, c'est un effort énorme qui est demandé aux agriculteurs. Et puis voilà, termine le bio via l'inflation, on dit, mais non, mais finalement, le bio, ça compte plus, il faut... Voilà. Alors, chez Monoprix et Naturalia, nous avons pris la décision de protéger la filière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de maintenir déjà les produits en rayon, de ne pas déréférencer, hein. Donc ça c'est le point numéro 1.
Okay.
Et le point numéro 2, de trouver des aspérités pour refaire revenir les clients dans les rayons. Par exemple, Naturalia a tout un plan justement de prix d'attraction pour que le client aille chercher...
Je te challenge un tout petit peu là-dessus. Vas-y. Sur le fait de travailler en groupe. Tu me parles typiquement de « je vais pas sortir un produit du rayon parce qu'il coûte trop cher ». Si tu as l'entièreté de la filière du retail qui dit « nous, en fait, sur ce type de produit-là, on ne va pas déréférencer », ça donne une vraie bulle d'air à la filière agricole. Si tu as juste Monop qui dit « bon, moi, je promets, je ne déférence pas ».
Et que les autres le font.
Et que les autres le font, le mec, il se retrouve quand même avec 80% de sa prod sur les bras. Et donc, en fait, on ne soutient pas. Le fait d'avoir des actions communes, il y a quand même un truc qui est bénéfique, non ?
Il y a chacun des distributeurs, lui aussi, a son action. Donc, si Monoprix a ses filières, les autres, Est-ce qu'il faut que tout bénéficie à la même personne ? Je ne crois pas. Petites exploitations qui parfois même n'ont pas les volumes nationaux pour tout. Donc il vaut mieux faire du un par un pour protéger les agriculteurs. C'est très fragmenté en fait
c'est
comme marché.
En tout cas, c'est la vision de Monoprix.
Juste un mot, Naturalia Monoprix, parce qu'on entend qu'il y a l'idée de garantir la banane, c'était l'exemple bio, une variété qui est garantie à un prix fixe. Comment Naturalia existe en proposant lui-même ses produits, et comment vous vous distinguez ? Parce que c'est intéressant, la stratégie que vous menez sur Naturalia. Il faut qu'il y ait des produits un peu différents, forcément.
Alors, Naturalia a des produits différents. Je rappelle, Naturalia, c'est le leader en centre-ville du bio. Et maintenant qu'on élargit un peu plus les produits, on va dire, naturels, sans pesticides. Voilà. C'est bio et pas que, mais toujours avec les garanties des meilleurs produits pour la santé.
C'est ça.
Mais bon et sain.
Bon et sain, et différent de ce qu'il y a dans les rayons de Monoprix, d'évidence.
Ils sont différents parce que déjà, c'est un réseau de distribution qui est différent, dans lequel les fournisseurs qui vont chez Naturalia ne peuvent pas aller dans ce qu'on appelle la grande distribution plus classique.
C'est ça.
Les produits sont bien différents.
Pour rester dans la RSE, toute la partie sustainability, en gros aujourd'hui, une boîte, quand elle fait de la sustainability, elle a trois choix. Ou bien elle vient le faire parce que elle vient adresser l'efficacité de l'entreprise, ou bien elle arrive à l'adresser, à le mettre au niveau de la top line, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui vient porter le truc, ou bien je le fais juste parce que j'ai le right to play, quoi. Si je le fais pas, je peux pas le faire. Les entreprises, après on peut faire beaucoup de greenwashing, si ça rentre pas dans ces cases-là, c'est un petit copec qu'on met de côté pour faire plaisir. Aujourd'hui, quand Monoprix vient adresser l'environnement, c'est quoi la principale poche sur laquelle ils essayent de leverager? C'est de se dire, je vais faire de la sustainability parce que je vais vraiment être en mesure de pouvoir le faire porter par mon consommateur. Est-ce que je dois le faire parce que j'ai des grosses poches d'efficacité à aller chercher, ou je le fais juste parce que je vois les lois qui vont me tomber sur la figure, et si je le fais pas maintenant, ça va m'écraser, quoi.
Ou les trois en même temps, d'ailleurs.
Ouais, alors, forcément, il y a un peu des trois, mais c'est quoi aujourd'hui le vrai game changer au niveau de ce
sujet? D'abord, c'est une conviction profonde qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date déjà du début des années 90, quand Monoprix a été le premier à lancer le bio, et puis après Monoprix Bio, sur le marché, 91 et après 94. Donc, la culture de Monoprix a toujours été d'anticiper les tendances, on va dire le quart d'heure d'avance, pour pouvoir répondre aux besoins du client. Il se trouve que, comme on l'a dit au début tout à l'heure, Monoprix est dans le centre des villes. Et dans le centre-ville, c'est un point névralgique, en fait, où il y a le plus de tensions et de besoins des clients. Besoins pour des produits sains, où là, il y a la pollution, voilà. Il y a tout un nombre d'éléments, de facteurs
qui
donnent envie, et le client de centre-ville est celui qui a le plus d'attentes. Et Monoprix, donc naturellement ancré dans le centre-ville, a été parmi certainement les premiers à répondre à ces attentes.
Mais est-ce que le réglementaire vous challenge? Parce que c'est
quand je parle de la sustainability, on parle là, je suis en train de parler des frigos, par exemple. Le fait de se dire, en fait, on va adresser la consommation des frigos. Je le fais parce que mon consommateur va être prêt à payer son yaourt plus cher parce que je vais remplacer tous mes frigos. Je le fais parce que le gouvernement m'a dit qu'il fallait le changer, sinon je ne peux plus le faire, ou bien je le fais parce que je me rends compte que j'ai un vrai gain d'énergie et du coup je vais le faire. Le coup de, et là je suis un peu le coup de dire non, je le fais parce que j'ai des convictions, il n'y a pas une entreprise du CAC qui dise pas, en fait nous on fait ça par conviction. Etienne, t'as un PNL avec des actionnaires et il faut que ça rentre, quoi.
Guillaume, très bien, réponse
avec des preuves. Oui. Donc sur la partie, on va dire, réduction là, des gaz à effet de serre, hein, puisque c'est ça,
la consommation. En fait.
Donc, effectivement, cette année, donc, j'ai annoncé que d'ici 3 ans, nous allions réduire encore de 13% nos émissions, notre consommation électrique. Mais cela faisait suite à une réduction de 20% sur les 5 années précédentes.
C'est ça.
Qui a entendu parler de la réduction sur les 20 années les 5 années précédentes? Personne. Donc, vous voyez, on l'avait fait par conviction. Voilà, maintenant que vient, on demande de parler, on dit non seulement on va là, mais on va aller plus loin.
Ouais.
Et là, à ce moment-là, on le communique. Mais on ne le communique pas, voilà, c'est pas la communication qui est le driver.
Juste un petit mot, parce qu'il nous reste peu de temps, un mot, 20 000 collaborateurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, un mot sur le recrutement, parce que là, on parle de stratégie, mais dans la stratégie, il y a aussi les stratégies de recrutement. Est-ce que c'est compliqué, comme pour tout le monde, aujourd'hui, de recruter des gens dans les magasins, dans les stocks? Est-ce que ça reste, au moment où on se parle, compliqué?
Ça reste tout un challenge de
c'est compliqué là
d'avoir des talents. Nous on a deux types en fait de personnes
collaborateurs,
de recruter, de collaborateurs. On a les collaborateurs et les franchisés.
C'est ça.
Et les franchisés qui eux-mêmes recrutent des personnes. Mais en général, on arrive à trouver vraiment beaucoup de on va dire de collaborateurs qui sont motivés pour rejoindre l'aventure Monoprix.
L'effet de la marque doit beaucoup aider là-dedans.
Ouais, c'est l'image de marque, c'est
vrai
de le dire.
C'est vrai que ça fait partie des. Et puis il y a une marque employeur qui est top l'employeur. Donc on prend soin de.
Élu top employeur. 2022, c'est ça, hein?
Oui, oui.
Non, mais il faut le préciser, on ne l'avait pas dit. Donc ça vous aide pour le recrutement? Ça donne envie aux jeunes, parler des talents, mais il y a aussi ceux qui sont à la caisse, il y a ceux qui remplissent les rayons, et c'est des métiers qui ne sont pas forcément faciles.
Ils ne sont pas forcément. Et aller chez Monoprix, c'est pas comme travailler dans un supermarché. Quelque part, il y a un petit quelque chose différent.
Ouais, un supplément d'âme.
Il y a un petit. Voilà, ça, la marque, ça
comme c'est aussi. Beau.
C'est beau, ça, hein, c'est de la poésie, ça.
C'est très joli.
Dernière question, Gus, peut-être.
Oui, juste au niveau de cette marque employeur, je veux qu'il y avait 1% de Monoprix qui était chez les employés. Est-ce que que ça fait partie des... Ou bien c'est juste en fait 1% qui se balade au niveau du top management, ou est-ce que c'est une philosophie de se dire, tiens, on va essayer d'embarquer les employés dans l'aventure?
Alors, on embarque les employés dans l'aventure...
Mais au niveau capitalistique, je veux dire.
Capitalistique. Alors, on ne communique pas sur ces éléments-là, et puis on fait partie aussi d'un groupe dont on n'est pas... On n'est pas sur une, on va dire, sur une stratégie publique par rapport à ça.
C'est ça, ok. D'accord.
Mais effectivement, on associe les collaborateurs à la croissance.
À la croissance, oui. Top. Toute dernière question,
Miriam. Elle était courte.
La réussite de Monoprix aujourd'hui, elle est principalement française. Il y a des ambitions à l'international. Vous l'êtes déjà, hein, je crois que c'est... Mais ça reste une dizaine de pourcents au niveau du groupe, où je m'abuse. On est plus ou moins là-dessus.
Alors, il y a quand même 125 magasins à l'international.
Mmh. Oui. Mais en termes de CA.
Ils sont franchisés. Hein, ouais. Comme en France, on développe la franchise. À l'international, on se développe par la franchise. Donc, ce n'est pas du chiffre d'affaires à proprement dit, ce qu'on appelle du volume d'affaires.
Du volume d'affaires.
D'accord. Quand on ne communique pas sur le volume d'affaires, on consomme sur le chiffre d'affaires.
Et cette compétence et cet asset de pouvoir se mettre au cœur des villes et vraiment leverager là-dessus, c'est un truc que, chez Monoprix, vous avez la conviction que c'est un truc qui est réplicable en dehors de France qu'il y a un modèle que vous allez pouvoir scaler.
Parisien,
quoi.
Ouais. Voilà. Alors, on a dans notre plan à 2025 l'ambition d'ouvrir 10 pays, de mettre Monoprix, de faire rayonner Monoprix. On va
dans
dire,
les centres-villes.
Ou pas nécessairement. D'accord, là, okay. On a ouvert par exemple aux Émirats l'an passé, au Koweït, et on va continuer. Évidemment, quand on peut, on rentre évidemment dans les centres-villes ou dans les centres, grands centres commerciaux qui permettent de montrer la qualité un peu. Monoprix, c'est aussi la qualité française.
Tout à fait. C'est vrai. C'est une marque patrimoniale. Merci Guillaume Sénéclos. Créé en 1932, je crois que je ne l'ai pas dit.
Exactement, 91 ans.
91 ans. C'est une très jolie vieille dame pimpante. Magnifique. Merci Guillaume Sénéclos d'être venu nous rendre visite pour Smart Tools.
Merci Arnaud.
Merci Guillaume.
Gus, c'est un vrai plaisir. Fondateur et CEO de Circle, président du groupe Monoprix Naturalia, de retour en France parce que vous avez fait une très très longue carrière à l'international. En Colombie, vous évoquiez l'Amérique du Sud, je crois que c'était la Colombie dont vous parliez tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui.
C'était la Colombie. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Guillaume. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, Gus.
À très bientôt.
Un nouveau numéro de Smart Talks. Bye bye.
Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.